France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, joyeux anniversaire à Marcel Amont, première partie. Marcel Amont fait preuve d'une longévité exceptionnelle qu'il attribue bien sûr à une grande part de génétique, mais aussi à son goût du sport et à une certaine tempérance vis-à-vis des tentations de faire des excès de toutes sortes que comporte le métier d'artiste. La chanson-titre de son nouvel album, sorti à l'automne dernier, figure dans le spectacle qu'il a présenté durant tout l'hiver à l'Alhambra de Paris, jusqu'à la belle soirée donnée le 2 avril pour célébrer ses 90 ans avec tous ses amis du métier, avant de partir prochainement faire plusieurs dates à travers la France. Seul en scène durant 1h30, il se raconte et se chante, revisite tout son parcours avec tendresse et humour. C'est précisément ce que l'on attend d'un chanteur fantaisiste, capable de faire de chaque chanson un véritable sketch. À l'occasion de ce spectacle rétrospectif et de son anniversaire, Marcel Amont est venu nous voir à France Musique pour nous parler de ses débuts dans le métier.
J'ai les cheveux d'argent, la calvitie absentéiste. Avant de tirer ma révérence, me reste quelques tours de piste. J'ai autant de références que mon corps de cicatrices et encore quelques pas de danse que je lance à l'improviste. Des années me passent par-dessus l'épaule, quoi que je fasse, le temps me frôle. Quoi que je fasse, j'ai toujours le beau rôle. Des années me passent par-dessus l'épaule, le temps a glissé, je pense, sans laisser trop de traces. C'est toujours les vacances quand on en reste à la préface. Les années me passent par-dessus l'épaule, quoi que je fasse, le temps me frôle. Quoi que je fasse, j'ai toujours le beau rôle. Des années me passent par-dessus l'épaule, quoi que je fasse, le temps me frôle. Quoi que je fasse, j'ai toujours le beau rôle. Des années me passent par-dessus l'épaule.
Cher Marcel Amont, bonjour. Nous fêtons vos 90 ans, mais aussi vos 70 ans de carrière comme chanteur fantaisiste. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est un chanteur fantaisiste ?
Mais c'est quelque chose dont la connotation est devenue bien vieillotte, sinon ringarde. Bon, indépendamment du fait important que ça me concerne au premier chef, je pense nous étions, en France en tout cas, les héritiers d'une longue tradition où il y avait des chanteurs. Le musical de grand-papa, le café-concert, des gens qui dansaient, qui chantaient, qui mimaient, et tout ça, peu à peu, avec les générations nouvelles, a pris une connotation un peu ringarde, il faut dire. Alors nous sommes quelques survivants de cette discipline-là, mais c'est dommage. Moi je rêve de voir un petit qui a 12 ans ou 14 ans, un petit ou une petite, qui ont 12 ou 14 ans aujourd'hui, et qui vont reprendre cette façon de traiter la chansonnette. C'était un spectacle varié. Alors évidemment, quand on est poète de la chanson, comme l'était Brassens, chef de file, et quelques autres, c'était pas la peine de faire les pieds au mur. Ils avaient des textes et des musiques à présenter. Finalement, on faisait le même métier, on entrait tous dans les théâtres par l'entrée des artistes, mais on faisait pas le même métier quand même. C'est comme dans le bâtiment, il y en a qui sont menuisiers, d'autres qui sont couvreurs, d'autres qui savent faire les escaliers, etc. Et ben voilà, moi, alors disons que je faisais des escaliers. On me pose souvent la question, on me dit, est-ce que c'était plus facile autrefois que maintenant? Non, c'était plus difficile de se faire un nom, mais c'était infiniment moins dangereux. Maintenant, il suffit de passer deux fois à la télé et ça y est, on est connu. Est-ce qu'on possède suffisamment son métier pour pouvoir être à l'égal de votre nom sur l'affiche? C'est très, très, très dangereux, très dangereux. Moi, j'ai 4 enfants, et je sais pas si c'est ça qui les a découragés de m'entendre tenir de pareils propos, mais il y en a aucun qui a voulu faire ce métier. C'est quand même symptomatique.
Tout doux, tout doucement, comme un enchantement, là-bas, près de l'étang, c'était toi qui chantais.
Dans toi, je suis venu, en chantant aussi. Dès que tu m'as vu, tu m'as souri.
Tout doux, tout doucement, comme un enchantement. Et là, près de l'étang, mon cœur battait, battait.
Tout doux, tout ce matin, nous chantons.
Comme il le raconte de façon très vivante dans son autobiographie « Il a neigé », Marcel Miramont, le futur Marcel Amont, est issu d'une longue lignée de bergers de la vallée d'Aspe dans le Béarn. Mais ses parents ont émigré à Bordeaux en 1925 afin de mieux gagner leur vie. Fils unique né le 1er avril 1929, Marcel baigne de bonheur dans la chanson, surtout celle colportée par les chanteurs de rue, jouée par des orchestres dans les bals populaires et puis bien sûr par les artistes en tournée. Plutôt dissipé, Marcel est du genre à amuser ses camarades d'école, plus tard ceux du lycée et ceux du sport, comme il le confie en 1968 à Paul Pirot du poste Nice-Côte d'Azur.
J'étais étudiant et j'avais toujours fait le, comment dire, j'avais toujours fait le zouave, quoi. J'avais toujours distrait les camarades et ça m'avait toujours plu de m'exhiber un petit peu, de m'exhiber dans le bon sens du terme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de chanter, de vous faire rire les copains, c'était surtout ça. J'avais un besoin impérieux de faire rire les copains.
Oui.
Et alors, comme je faisais du sport en même temps, eh bien, j'avais continuellement cette ambiance de chahut et de rigolade autour de moi. Et ça m'a conduit d'une façon très naturelle à la chanson, puisque je faisais tous les radios crochets et tous les trucs soutenus par une équipe de supporters tout à fait solide et enthousiaste. Ensuite, je suis entré au conservatoire de comédie, comme ça, de façon très naturelle. Quelqu'un m'avait vu dans un gala, m'a dit « Vous devriez essayer de faire ce métier ». Je lui ai dit « Ah oui, vous croyez ?» Et j'étais très heureux qu'on me dise ça. Puis j'ai abandonné mes études parce que tout de suite...
Études de quoi, pardon ?
Eh bien, après avoir terminé mes études secondaires, je ne savais pas si je devais faire le droit ou le professorat d'éducation physique. J'ai fait les deux et finalement, je n'ai rien fait. Enfin, officiellement, j'étais inscrit à la faculté de droit, mais je crois que j'ai pas, on ne m'y a pas souvent vu.
On me regarde sans me voir, on ne rit pas de mes histoires, on s'en moque, on est venu voir le cirque. Table de maquillage, de l'or, du rouge et puis du bleu. Il ne m'en faut pas davantage, une ritournelle et les pleins feux. Et je deviens, moi, le clown. Dans mon costume de diamant, sous le tonnerre étourdissant, 2000 bras où je bondis dans le cirque. Moi le clown. Je joue du violon, du saxo, je fais des bonds, je fais des sauts, en crevé le chapiteau du cirque. La Je jongle avec 10 000 étoiles, signe distinctif géant. Et je vois briller toutes ces étoiles dans les yeux des petits enfants. Moi, le clown, je suis celui qui peut devenir le plus beau de leurs souvenirs, un demi-dieu sur son navire, le cirque. À minuit fini le miracle, quand je regagne mon hôtel, je suis redevenu un tel jusqu'au prochain spectacle. Oui, mais demain, moi, le clown, dans mon costume de diamant, sous le tonnerre étourdissant, 2000 bravos, j'entrerai dans le cirque.
Est-ce qu'il y a eu un déclic, une révélation des artistes qui vous ont inspiré qui...
Oui, bien sûr, j'avais mes préférences. C'était les gens justement gays, les gens qui semaient de la gaieté. La liste est longue. Il y avait Maurice Chevalier, de temps en temps Jean Sablon, Ray Ventura et ses collégiens, Charles Trenet. J'étais un amoureux fou de Charles Trenet. Je connaissais le répertoire entier de Charles Trenet. Je chante, il y a de la joie, boum, le soleil rendez-vous avec la lune, ça me ravissait. Ça...
Il revient toujours comme une référence, hein, pour les gens de votre génération. C'était...
Bien sûr. Ouais. Ben, d'abord comme poète, non pas que contrairement à ce qu'on dit, en dehors de lui, il n'y a eu personne. Il y avait des tas de gens. Maurice Chevalier avait un répertoire quand même choisi. Mmh. Et il avait beaucoup de goût et il avait eu l'expérience d'un monsieur qui avait quand même triomphé à Hollywood. Bon, ce qui n'est pas rien. Mmh. Bon. Mais Charles Trenet, c'était pas un homme de scène comme pouvait être Maurice Chevalier et quelques autres, les Ray Ventura et ses collégiens. Mais le répertoire était tellement frais, joyeux, bien écrit. Mais chanter du Charles Trenet, c'était à la portée de gens qui bougeaient pas. Mais c'était à la portée aussi du premier fantaisiste venu. Oui, oui. Il était polyvalent, le cher Charles, qu'on a beaucoup aimé.
Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu que le soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien, ça... Elle est bien bonne. On écoutait ce ton intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du Grand Café. Oh, mais c'est vrai alors. Par terre, on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installé devant la grande table, ah, vous invitiez des ducs et des connétables, là. Quand on vous présenta soudain l'addition, vous avez déclaré, moi, j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 40 ans, c'est vous le chasseur, le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, et c'est pour payer cette soirée lamentable. Vous le vilain, ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manigueurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au Grand Café. Elle vous bouffe, t'as les mythes, elle vous...
Garçon, voilà.
Le Grand Café, un des premiers succès de Charles Trenet, créé en 1938, fait partie des chansons familières du jeune Marcel Miramont, qu'il enregistrera 20 ans plus tard. Mais au lendemain de la guerre, il en est encore à débuter dans des fêtes locales et à se nourrir des prestations de ses aînés, notamment les vedettes de passage à Bordeaux comme Yves Montand.
Alors, quand j'ai commencé à devenir semi-professionnel, c'est-à-dire ne pas être totalement à la charge de mes parents, quand j'ai commencé à cachetonner un peu dans les matinées classiques, en jouant les valets de Molière, et un peu l'orchestre, un peu tout ça, bon, bref. Là, un jour, dans nos quartiers populaires, on n'avait pas beaucoup de sous. Je ne cherche pas à faire du misérabilisme rétrospectif, mais les gens qu'on aimait beaucoup, on n'allait pas au théâtre les voir. Bon, et un jour quand même, je me paie une place à l'Alhambra de Bordeaux pour aller voir Yves Montand. Avec ma copine, on va voir Yves Montand. Et là, j'ai reçu le choc de ma vie. Je me rappelle toujours une chanson qui m'avait frappé, Battling Joe. Alors voilà, un petit gars du Nord qui se châtaigne avec les copains, il devient champion de France. Après, il progresse, il devient champion des champions et il finit par un mauvais coup, il devient aveugle. Et ça en 3 minutes. Mais je me disais, j'étais subjugué, j'étais enthousiaste. Et toute la journée, j'imitais Yves Montand. Je prenais un vieux chapeau, je travaillais des sorties et tout ça. Je pense que sans Yves Montand, j'aurais continué, bien sûr. Mais Yves Montand a été déterminant. Parce que j'ai vu, oui, c'est probablement l'exemple qui illustre le plus que j'ai pu assez vite, relativement vite, j'ai pu me diriger vers le style fantaisiste. Parce que le type qui chante Luna Park, tout ça, qui chante Battling Joe, donc, et qui me donne un spectacle où en 3 minutes, il me joue une petite comédie, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
Dans un village noir de charbon, dans les cheminées et les corons, tout petit, il battait ses copains, il était fier de ses deux poings, presque autant que son père le mineur, qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom, la n'avait pas. Comme la mode était à l'anglais, il s'appela Battling Joe. Battling Joe. C'était un peu démesuré pour un gosse aux épaules étroites, mais qui avait une méchante droite. Le Battling Joe, il gagna son premier combat, et le soir même avec papa, il prenait le train pour Paris, où un boxeur, ça vaut son prix. Battling Joe.
Battling Joe vainqueur par KO, 8e reprise. Battling Joe vainqueur par KO, 6e reprise.
Le jeune Marcel admire également des duettistes un peu plus âgés que lui, Roche et Aznavour, dont les paroles rythmées font swinguer la langue française d'une façon inédite. Il se constitue ainsi un premier répertoire avec des refrains de Charles Trenet, Yves Montand, Georges Hulmer, Lili Fayol, Ray Ventura, Henri Salvador et Roche et Aznavour. Sa vocation artistique s'affirme au point de vouloir devenir professionnel à partir de 1948, ce qui ne rassure guère ses parents. Tout en suivant les cours du Conservatoire d'art dramatique, il se produit dans des galas de bienfaisance de la région bordelaise, comme chanteur d'orchestre pour des bals de fin de semaine, à Radio Bordeaux, dans des opérettes, dans un cabaret malfamé du centre-ville, et finalement dans une revue de fin d'année en 1950, à l'Alhambra de Bordeaux. Au début de l'année 51, Marcel va fêter ses 22 ans et décide d'effectuer le grand saut. Il part pour Paris, comme tant d'autres jeunes artistes venus de divers coins de France ou de Belgique, car ils savent que c'est là que tout se passe si l'on veut faire carrière dans la chanson. Il emporte dans ses bagages son premier succès personnel, Escamillo, une pantalonnade espagnole, genre qu'il exploitera durablement durant les années 50. Les paroles sont de Georges Coulonge, un bordelais qui fera plus tard carrière à Paris, travaillant notamment pour Jean Ferrat.
Ah oui, merci. De fuego. Version française.
C'était un grand torero d'Espagne qui n'avait jamais vu qu'un taureau. Un charmant taureau venu de Cerdagne, un gentil taureau doux comme un agneau. Pourtant, malgré 20 ans de patience, torero pouvait pas le tuer. La foule à chaque fois lui faisant confiance se disait cette fois il va y arriver. Escamille, oh, Escamille, oh, sous les yeux des belles madrilènes entrait dans l'arène. Escamille, oh, Escamille, oh, sans se perdre dans les détails, se mettait au travail. Comme il ne savait pas s'écarter, c'était le taureau qui l'évitait. La foule criait d'admiration, le taureau se levait sous l'ovation. Escamille, oh, oh, Escamille, oh, oh, c'était le roi de la corrida dans toute l'Espagne. Anda! Olé! Segundo couple, anda! Escamillo, bum, 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 bum!
Bon, bref, c'est à Paris que ça se passait. Et personne ne m'attendait, puisque j'étais un illustre inconnu.
Alors justement, comment est-ce que, quand on est un illustre inconnu, comment est-ce qu'on essaie de faire son trou à Paris? Où est-ce qu'on chante? Comment on se fait connaître?
On n'était pas au Pôle Nord, on était dans la ville Lumière. J'ai toujours été sociable, j'ai toujours eu trop... Rapidement, je me suis fait des copains et des copines qui vous donnaient les tuyaux. Ben voilà, le mercredi, ils donnent des auditions, apporte des partitions en ordre parce qu'il y a un pianiste qui lit pas très bien la musique. Des fois le pianiste il était extraordinaire, des fois il l'était pas. Bon, après on allait passer des auditions dans les cabarets, à tel endroit, à telle heure, tel jour, etc. Il y avait des lieux où c'était le patron lui-même. Allez vas-y petit, fais-nous voir ce que tu sais faire. La Bolée, où on était payé 3 francs 6 sous. Mais alors c'était des chansons de rock, de corps de garde, des chansons, des refrains militaires. Et entre...
Et là vous parlez du caveau de la Bolée, c'est ça?
Oui, le caveau de la Bolée. Et entre, et bien voici maintenant le jeune. Ah, il promet, c'est un jeune, il arrive de Bordeaux. Encouragez-le. Allez, Marcel, avant. Bon. Il faut passer dans des brasseries. Non, il y avait des lieux où on pouvait se produire. On n'était pas très bien payé, mais il m'est arrivé souvent, dans la même nuit, de faire 3-4 établissements. Ça me permettait au moins de manger à ma faim et de payer un hôtel minable. Il était minable quand même, les hôtels. Mais ça va, à cet âge-là, on pionce sans problème. Bon, bref, ça a été quand même difficile puisque j'ai payé quand même cette vie de bâton de chaise. Je l'ai payé par un an de sanatorium.
Ah oui?
Ah ben oui, il faut payer quand même l'addition au bout d'un moment.
Marcel Hamon, vous avez commencé à faire vos disques à partir de 1956, mais j'ai retrouvé à l'INA un document incroyable. Il s'agit d'un extrait de la célèbre émission Télé Paris de Roger Ferral et Jacques Chaban, et ça a été enregistré en novembre 1952.
Voici maintenant un baptême. C'est Monsieur Marcel Hamon. Marcel Hamon est un jeune chanteur. Alors l'autre jour, un grand éditeur, mon ami Seller, m'a dit qu'il avait entendu M. Marcel Hamon et qu'il avait trouvé qu'il avait de très grandes qualités. C'est vrai?
Il m'a dit ça.
Je sais pas. Vous chantez-vous actuellement?
Eh bien, je passe à l'Oreille du Bois et à Les Chansons, chez André Pasdoc.
Alors vous chantez chez Pasdoc, nous allons vous demander de nous chanter une chanson de votre répertoire.
Oui.
Qui marque ainsi vos brillants débuts dans la chanson.
Oui.
Nous vous écoutons.
Eh bien, voici une chanson de Marc Fontenoy qui a pour titre « Le menuet ». De la reine. Dans le palais, tous les laquais sont rassemblés. Ce soir, il y a bal à Versailles. Ambassadeurs et grands seigneurs sont inclinés. Leur majesté font leur entrée. Plom, 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 plom. On se prépare pour la gavotte, le menuet. Il baise mort, mais soudain de curieuses notes s'échappe du clavecin. La reine adorait la java car elle avait parfois le goût populaire. Au chef d'orchestre tout pantois, elle avait dit ce soir vous ne jurez que des java. Elle fit à peine une révérence, puis soudain silence en vol plané. Dans les bras d'une excellence qui d'émotion s'entortillait les pieds. Majesté. Le roi un peu estomaqué regardait sa moitié qui levait les gambettes. Jamais on n'avait vu ça, une reine danser la java. La java, la java, la java. Dans le palais, tous les laquais étaient inquiets. Ce n'était partout qu'un murmure. Oui, ça commence par une danse et conclusion, ça donne la révolution.
Ah, dis donc, je vous cache pas que c'est très émouvant. Je pensais pas qu'un document pareil existe.
Alors, donc là, à l'époque, en 52, vous êtes donc inconnu, vous chantez, comme vous me disiez, dans quelques brasseries, quelques...
dans tous les lieux où on accueillait des débutants, quoi. Des débutants, des gens qui n'avaient pas de nom, connus du grand public.
Mais alors, est-ce que vous chantiez déjà dans les cabarets, que ce soit rive droite, rive gauche, ou est-ce que c'est venu petit à petit, ça?
Oui, mais les cabarets, il y avait tout un échantillon de cabarets. Il y avait la Bolée, justement, où on chantait des chansons, des refrains de corps de garde. Et puis, à côté de ça, vous aviez bon, l'Oreille du Bois, là ça commençait à être
le mieux payé.
L'Oreille du Bois, oui. Il y avait le Carole, s'il y avait des endroits plus prestigieux. Il y avait toute la gamme pour les noctambules différemment fortunés.
Oui.
C'était pas le cabaret, c'était pas les mêmes. Bon. Alors j'ai commencé dans les petits cabarets, et puis après dans les moins petits, après dans les moitiés grands, et puis j'ai terminé chez Tonton, au Libertis. Là, je croisais des gens comme Sardou, Père et Mère, Jacqueline Maillan, avec qui nous sommes vite devenus amis. J'allais chez elle répéter pour les émissions de Jean-Noël, puisque assez vite, je me suis mis à faire les émissions de Jean-Noël, 36 gendarmes. Peu à peu, on faisait sa pelote, petit à petit, je l'ai dit tout à l'heure, petit à petit, ça venait pas d'un coup.
Et bien, voici de la fantaisie, voici de la parodie, avec Marcel Amon. Accompagné par Gérard Pegard, voici venir Marcel Amon.
Au cabaret La Villa d'Est, en juillet 1955.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voici une chanson printanière qui a pour titre Chanson d'avril. Je l'ai rencontré au coin de la rue, très court vêtu d'un blanc tutu. Je lui ai souri, elle m'a souri, on s'est tout de suite compris. Pom pom pom, c'est une chanson d'avril qui trotte dans les rues, qui marche dans la ville. C'est une chanson d'amour qui chante dans les cours. Je l'ai suivie au bout de la rue, elle est montée. Et je l'ai vue ouvrant la porte d'un entresol avec une clé de sol. Je lui ai dit, petite chanson d'avril. Mi, ré, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, la, si, do, ré, si, sol, fa, ré, si, la naturelle. Do, si, do, ré, mi, fa, si, bémol d'amour. Puis je lui ai dit, venez chez moi. Elle m'a dit, oui, mais pas comme ça. Je vais me mettre en ré bémol. C'était une chanson folle. Pam, 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 pam. Puis m'a regardant de bas en haut, elle m'a dit, vous êtes artiste, hein? Vous savez, j'aime les petits cadeaux. C'était une chanson réaliste. Là, là, c'est une chanson du mois d'avril qui trotte dans la ville. Tous deux nous sommes redescendus. Je l'ai emmenée dans un petit bar. C'est fou tout ce qu'elle a bu. C'était une chanson à boire. C'est une chanson d'avril. C'est une chanson d'avril. Elle est montée un soir d'avril dans mon joli petit domicile. On s'étend plus qu'on s'est marié, matin du 1er mai. C'est une histoire d'amour, comme il n'y en a pas toujours. Hop! Ce sera très peu radiophonique, ça. Très peu. Ça fait rien.
Radiophonique ou pas, c'est une grande chance pour nous de disposer d'une telle archive recueillie en 1955 par le poste Paris Inter pour l'émission Rendez-vous à 5h. Signée comme la précédente de Marc Fontenoy, une valeur sûre des éditions musicales Paul Becher, cette chanson d'avril restera durablement au répertoire de Marcel Amon. En cette année 55, le fantaisiste a acquis une certaine notoriété auprès du public parisien. Passant d'une rive à l'autre, il se produit dans des cabarets de tous les styles, des chics du quartier des Champs-Élysées aux plus littéraires du quartier latin. Un parcours en zigzag qui finira par lui ouvrir les portes des music-halls, comme nous le verrons dans la prochaine émission. Je grand merci Dorothée Gol à la préparation, Cédric Châtelus à la technique, Éric Lancien à la réalisation, Aude Vassant pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.